Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci Gaëlle pour cette riche introduction, donc, qui montre à quel point cet ouvrage dont nous allons discuter ce soir est dense. Donc, en fait, il nous faudrait pratiquement un week-end de discussion pour venir décortiquer, comprendre, expliquer tous les concepts qui ont été évoqués rapidement par Gaëlle, mais je crois qu'ils y sont à peu près tous. Hein. C'était assez admirable. Donc, mes questions là ce soir, elles vont d'abord tenter de mettre l'accent sur une compréhension partagée de ces concepts clés et sur le développement de leur opérationnalisation. Parce que quand on écrit un bouquin qui s'appelle « Comment bifurquer », ben, à la fin, on a quand même envie de savoir quoi faire. Donc on va essayer d'être assez concret dans cette présentation ce soir. Donc j'espère que ça vous conviendra. J'ai l'impression que je parle très fort. Alors est-ce que... Non, ça va le son ? Très, ouais, parce que moi je m'entends très fort pour le coup, mais si ça vous convient, tout va très bien. Donc voilà comment on va procéder ce soir, cette fin d'après-midi. Donc un temps qui sera rythmé par quatre grands moments. Donc un premier qui sera de l'ordre de la contextualisation et de définition liminaire. Parce que comme vous l'avez entendu, il y a plein de mots compliqués, polysémiques, sur lesquels il sera important de revenir pour bien s'entendre, pour bien se comprendre. Donc ça, ce sera le premier temps. Un deuxième temps qui laissera le temps à nos auteurs, justement, de pouvoir développer, argumenter, expliquer ce qu'ils veulent nous dire, parce que leur ouvrage est quand même aussi politique. Hein. Il y a de l'utopie derrière cet ouvrage. Donc on aura besoin de les entendre un petit peu nous développer leurs propos. Et le troisième temps, ben c'est là qu'interviendront vos premières questions. Et ce seront d'abord des questions de clarification, de précision. Pourquoi ? Parce qu'après, on va débattre. Et pour débattre, encore une fois, il faut qu'on soit à peu près au clair sur ce dont on parle. Donc un temps assez court de précision, de clarification, qui sera animé par vos questions à vous. Et enfin, quatrième temps, donc le temps attendu, temps du débat. Et là, je vous invite à, tout au long du déroulement des propos de nos auteurs, à consigner vos doutes, vos incompréhensions, vos désaccords, mais aussi peut-être vos points d'accord, hein, il n'y a pas de raison, vos enthousiasmes, ce qui vous aura animé pendant cette rencontre, c'est ça qui viendra nourrir en fait ce dernier temps de débat. Donc, si vous n'êtes pas là pendant le temps de débat, en gros, il ne se passera pas grand-chose. Donc, je compte vraiment sur vous. Ça me permettra donc d'être plus sereine pendant ce temps de présentation si vous préparez effectivement des questions. Non, j'en ai quand même quelques-unes sous le coude. Donc, premièrement, messieurs, notre premier temps est autour donc, du contexte et de premières définitions. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que lectrice donc, de cet ouvrage, c'est qu'est-ce qui a guidé finalement l'écriture de ce bouquin. En somme, vous nous dites comment bifurquer. Donc moi, je vous pose la question de quoi, pourquoi faut-il bifurquer. Donc bien sûr, ça demande une réponse assez rapide.
Bonjour, bonsoir à toutes et tous, on est ravis d'être là. Merci pour l'invitation et merci à toutes et tous d'être là. Pour contextualiser les choses, on peut dire la chose suivante. Nous, on est des universitaires, évidemment, donc on fait un livre qui est un livre un peu académique par certains aspects, mais on est aussi des militants politiques, on aime bien la politique. Et donc on veut, avec cet ouvrage, intervenir dans une conjoncture politique particulière qu'il faut en effet caractériser, et que ta question me donne l'occasion de caractériser très rapidement, et puis évidemment... Cédric complétera. Je crois que notre conjoncture, elle se caractérise par la crise du néolibéralisme qui a régné depuis les années 80-90 et jusqu'à la crise de 2008. Évidemment, le néolibéralisme, il n'a pas disparu, loin de là. Des politiques néolibérales continuent à être mises en œuvre aux quatre coins du monde et particulièrement, évidemment, en France, en Europe, plus en général. Mais ça n'empêche pas que le néolibéralisme comme projet de société n'en est plus à ce qu'il était dans les années 80-90 et 2000. Et donc qui connaît une sorte de crise d'hégémonie, en tout cas sur le plan idéologique. Il y a trois éléments qui expliquent cette crise d'hégémonie du néolibéralisme. D'abord la crise de 2008, la crise dite des subprimes, où l'État est intervenu massivement pour sauver les marchés financiers, et donc la démonstration a été faite que le marché livré à lui-même, ça ne marchait pas. Deuxièmement, la montée en puissance de la Chine, avec son modèle alternatif, qui n'est pas néolibéral, qui est quelque chose d'autre, qui est capitaliste bien entendu, mais qui n'est pas néolibéral. Et puis troisièmement, la crise climatique. On constate depuis déjà de nombreuses années que les solutions de marché à cette crise climatique ne fonctionnent pas. Et donc on constate dans le champ politique en général, pas seulement à gauche et pas seulement dans la gauche radicale, des tentatives d'essayer de trouver des alternatives au marché et au néolibéralisme. C'est pas un mystère que Emmanuel Macron lui-même ait repris le terme de planification écologique et qu'il l'ait transformé en un secrétariat de la planification écologique. Évidemment, on peut dire que c'est cosmétique, on peut dire que c'est n'importe quoi, qu'il n'y a rien derrière, etc. Mais c'est quand même symptomatique de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors nous, on fait simplement une proposition théorique dans ce contexte-là, en cherchant à discuter avec toute personne que ça intéressera, dans la gauche radicale, mais aussi, pourquoi pas, un peu plus à droite. La planification, ça n'a jamais été un monopole de la gauche. Il y a eu une planification capitaliste, il y a eu une planification faite par la droite. Et donc, l'ouvrage s'insère dans cette conjoncture particulière qu'est une crise d'hégémonie du néolibéralisme et la nécessité qui en découle de faire des propositions pour essayer de convaincre un maximum de personnes qu'il y a des alternatives.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup en effet pour l'invitation et pour l'introduction formidable. C'est très touchant. Alors, pour répondre à la question qui a été posée, un des objectifs du livre, c'est d'essayer de se hisser à la hauteur de ce qui se joue autour de la crise écologique. La discussion sur les questions écologiques s'est développée, s'est approfondie de manière très marquée depuis plusieurs décennies. À partir des années 70, on commence vraiment à prendre conscience des effets destructeurs du mode de développement économique. À partir de ce moment-là, des accords internationaux vont être signés, des institutions vont être créées, des ministères vont être créés. Bon, le secteur privé va prendre des initiatives, il va y avoir des labels, etc. Et tout ça montre bien qu'il y a une prise de conscience écologique dans nos sociétés. Ce n'est pas ce qui fait défaut. Et en dépit de cette prise de conscience écologique, en dépit de cet activisme institutionnel multidimensionnel, eh bien la crise écologique n'a fait que s'approfondir. Autrement dit, la conversation qu'on a aujourd'hui autour de la crise écologique est une conversation qui est dominée par des solutions qui se veulent raisonnables. Voilà, qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est acceptable. Et nul autre que le Financial Times, cette semaine même, se posait la question, est-ce qu'on n'a pas un problème avec les gens raisonnables dans cette discussion? Pourquoi? Parce que le coût des destructions écologiques qu'on est en train de générer est tel que ce qui semble extraordinaire aujourd'hui est finalement bien peu de choses par rapport à ce qu'il va falloir assumer lorsque le plein développement de la crise écologique aura eu lieu. Puisqu'évidemment, c'est la question du climat, mais c'est aussi l'effondrement de la biodiversité, c'est la pollution des eaux, c'est la multiplication des microplastiques. Bon, les limites planétaires dans très grand nombre de dimensions sont bousculées. Et autour de ça, eh bien, les effets retours violents sont en train d'émerger à une vitesse extrêmement, extrêmement importante. Donc finalement, eh bien, voilà. Comment bifurquer? C'est effectivement une forme de radicalité par rapport à l'existant. C'est le refus des solutions qui sont celles du capitalisme vert, qu'on prend beaucoup de temps à discuter en détail dans le livre, hein, qu'on prend au sérieux, mais qui, à notre avis, sont des impasses. Et c'est finalement faire plus qu'une simple transition. Et c'est aussi ça qui justifie le terme de bifurcation par rapport au terme de transition. L'idée de transition écologique, en fait, on parle souvent de transition écologique, mais ce que ça veut dire, c'est plutôt transition énergétique. Donc déjà, vous voyez, on réduit le problème à une seule de ces dimensions. Et même l'idée de transition, c'est finalement l'idée de ne pas changer grand-chose, mais de le faire de manière plus propre. On garde les mêmes modes de production, on garde les mêmes mobilités, on garde les mêmes modes de consommation, mais on essaye de remplacer des processus à base de combustible carbone par de l'électricité essentiellement. C'est ça la démarche. Alors effectivement, électrifier pour réduire les gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est important. Mais c'est très difficile. Déjà, on n'est pas du tout dans la bonne direction à l'échelle mondiale. Ça ne progresse pas. Hein. Ce n'est pas que ça avance pas assez vite, c'est que ça ne progresse pas. Hein. Il y a chaque année plus d'émissions dans le monde qui ont lieu que l'année précédente. Donc ça, c'est le premier problème. Mais le second problème, c'est que c'est aussi unilatéral. Ça ne prend pas en compte les autres dimensions de la crise écologique. Donc la bifurcation, finalement, eh bien, c'est dire on ne va pas seulement pouvoir verdir les processus existants. Il faut interroger leur organisation même. C'est un livre qui parle de transformation écologique, mais à partir de la question de l'organisation, de la production et de la consommation, et des institutions politiques qui peuvent aider à faire cette transformation.
Donc vous parlez de bifurcation comme finalement une approche beaucoup plus radicale que pourrait être le terme de transition qu'on entend aujourd'hui énormément. Pour bifurquer, justement, vous proposez une piste qui est celle de la planification écologique. Il se trouve que pendant que les gens s'installaient tout à l'heure, j'ai sondé un petit peu les libraires et publics de la librairie des Volcans. Et derrière ce terme planification écologique, ce qui apparaît, ce que ça peut évoquer, c'est aussi une forme d'autoritarisme, d'étatisme, voire de totalitarisme. On m'a cité l'URSS, la Chine. On me parle de contraintes, effectivement, même si je reprends les propos d'une des libraires, je ne sais pas si elle est là, qui m'a dit, finalement, la planification, est-ce que ce ne serait pas une forme de totalitarisme qui, au final, ne laisse pas de place au cas par cas et donc à la complexité et donc qui peut poser, finalement, de sérieux problèmes. Donc, face à ces représentations extrêmement négatives du terme de planification, je vous demande, messieurs, quelle est votre définition à vous de la planification écologique? Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Comme tu veux. Non, mais sinon je peux réagir rapidement peut-être. Vas-y. sur effectivement ces craintes que suscite le terme et qui sont des craintes après tout parfaitement légitimes. Et le livre prend fait un effort très important pour justement essayer d'expliquer le type de planification que l'on souhaite et montrer de quelle manière il se distingue des types de planification existantes. Donc les planifications existantes, elles ont plein de défauts. Elles ont été associées, dans certains cas, pas toujours, mais à des formes de dictature. Dictature comme en Union soviétique, mais dictature aussi comme les modèles de planification qu'on a eu par exemple en Corée du Sud, qui étaient des modes de planification capitaliste extrêmement autoritaires. Donc on a eu différents types de dictatures qui ont mobilisé des formes de planification plus ou moins fortes. Puis on a eu des formes de planification moins autoritaires, même si elles étaient loin d'être parfaitement démocratiques, mais dans la France d'après-guerre, des formes de démocratie parlementaire coexistaient avec la planification. Ça, c'est le premier défaut des planifications existantes. Le deuxième défaut des planifications qui ont existé, c'est que c'était des planifications productivistes. Toutes, elles visaient d'abord et avant tout à augmenter la production dans une perspective de développement économique tel qu'il était conçu au XXe siècle, c'est-à-dire plus ou moins de se rapprocher du modèle américain, qui était considéré comme l'horizon de prospérité. C'est les principaux modes de planification, hors des économies de guerre, c'est des planifications de rattrapage. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des usines aussi efficaces, d'avoir autant de biens de consommation, des infrastructures aussi performantes, etc. Donc là, ça fait effectivement deux sérieux problèmes pour le thème de planification. Mais il y a quand même un autre élément qui doit être pris en compte, c'est que le mérite des expériences de planification, c'est qu'elles ont existé. Et elles ont existé et elles ont permis d'organiser des objectifs économiques et sociaux à l'échelle de société et de les atteindre dans un certain nombre de cas. Alors, on part de ça. C'est un livre qui, Florine l'a dit tout à l'heure, qui est utopique par certains aspects, mais c'est un livre qu'on a aussi voulu très réaliste. On parle beaucoup dedans de ces exemples-là, donc d'histoire. On fait aussi beaucoup de comparatisme. On a parlé de la Chine tout à l'heure. Eh bien, la Chine occupe une place importante dans ce livre. Pourquoi ? Pas du tout parce qu'on idolâtre le modèle chinois, mais simplement parce que la Chine est la grande expérience socio-économique de notre époque, qu'on le veuille ou non, comme les États-Unis ont été la grande expérience socio-économique du XXe siècle. C'est là où les transformations les plus importantes pour l'humanité ont lieu. Bon. Donc il faut regarder, avec évidemment un œil critique, mais essayer de comprendre ce qui se passe. Bon. Et donc, effectivement, on fait cet effort à la fois et historique et comparatif de manière importante. Donc voilà, peut-être un peu pour situer la planification. Et alors, je vais finir et tout de suite te laisser la parole, Razmig, mais ce sur quoi on insiste dans le livre, c'est que c'est une planification qui a deux qualificatifs. Le premier dans le titre, une planification écologique. Ça veut dire que ce qu'on met au centre, c'est la contrainte écologique. Et donc, il y a toute une discussion sur le moyen de le faire, en particulier la question de la comptabilité écologique, sur laquelle on pourra revenir. Et puis le deuxième critère, évidemment, qui est absolument crucial, c'est une planification que l'on souhaite démocratique. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'autolimitation de la planification qu'on essaye de penser, et aussi la manière dont la population, à différents niveaux, peut s'emparer de ces outils pour mener à bien un projet. Au fond, ce qu'on propose avec la planification, ce n'est pas une restriction des libertés, mais un nouvel horizon de liberté qui aujourd'hui est monopolisé par les grandes entreprises.
Quelques éléments juste de complément pour aller dans le sens de ce que dit Cédric. On définit en effet la planification écologique comme un gouvernement par les besoins. Vous avez utilisé l'expression qui est quelque chose qu'on travaille dans le livre. On peut dire la chose suivante. Dans le capitalisme, dans les sociétés de marché, la définition et la satisfaction de vos besoins, elles dépendent de votre pouvoir d'achat. De l'argent que vous avez à votre disposition. Et donc plus vous en avez du pouvoir d'achat et plus vous pourrez satisfaire des besoins, pour beaucoup artificiels, pour beaucoup polluants, pour beaucoup aliénants. À l'inverse, si vous n'avez pas ou peu de pouvoir d'achat, c'est-à-dire pas ou peu d'argent, certains de vos besoins essentiels ne vont pas être satisfaits ou ils vont être satisfaits éventuellement par des services publics ou par une solidarité familiale et amicale, etc. Donc fondamentalement, la définition et la satisfaction des besoins dans les sociétés de marché s'opèrent par l'entremise du pouvoir d'achat. La planification écologique comme gouvernement par les besoins propose de sortir la satisfaction et la définition des besoins du marché. Et donc de mettre sur pied un gouvernement par les besoins, qui consiste d'abord et avant tout à délibérer démocratiquement, collectivement, sur les grands besoins qu'on veut satisfaire, les besoins essentiels qu'ils soient individuels ou collectifs, et ensuite à mettre l'appareil productif au service d'une production qui satisfasse ces besoins. Ceci dans des contraintes écosystémiques, donc écologiques. Donc une manière de définir la planification écologique, c'est précisément de partir de la notion de besoin individuel et collectif et de dire que désormais, il faut que la démocratie collective, la délibération, s'impose à la définition des besoins. Donc ça, c'est un premier élément. Mais de notre côté, ça laisse pas mal de place quand même à la liberté individuelle. Là, il faut revenir à la manière dont fonctionnent les économies de marché. Est-ce que la liberté individuelle, c'est de consommer comme le font les injonctions de la publicité qui colonise de plus en plus nos espaces publics ? Ben non. Donc la planification écologique, ça supposera aussi de réduire drastiquement la place de la publicité, si ce n'est de l'abolir, en tout cas de réduire drastiquement la place de la publicité dans nos espaces publics. C'est une condition de la planification, plus exactement une condition du gouvernement par les besoins. De même, est-ce que l'obsolescence, qui est une des caractéristiques des économies de marché également, on pourrait revenir là-dessus, devra être contrebalancée par exemple par un allongement des durées des garanties légales, qui est un sujet qu'on aborde aussi dans le livre, qui contrecarrera plus exactement l'obsolescence programmée telle qu'on la vit dans nos sociétés. Donc il y a des conditions légales et politiques et institutionnelles du gouvernement par les besoins, donc de la planification écologique, qui devront être mises en place. C'est d'une certaine manière un projet de réforme totale de la société qu'on propose. C'est pas juste un programme économique au sens étroit du terme. C'est une réforme de société, quoi.
Alors maintenant qu'on a passé un petit peu de temps pour tenter de définir ce qu'était pour vous la planification écologique, tout en sachant qu'on reviendra plus longuement tout à l'heure sur le gouvernement par les besoins, j'aimerais qu'on continue ce petit exercice de définition par maintenant des formes de différenciation, à savoir, depuis presque 2 ans, vous le disiez tout à l'heure, un secrétariat général à la planification écologique a été créé et sous l'autorité de notre Premier ministre. Donc c'est bien un secrétariat général à la planification écologique. Et donc ce qui m'intéresserait là, c'est de voir quelle est la différence entre vous, la planification écologique que vous proposez et la planification écologique qui est actuellement mise en œuvre, il paraît, par Antoine Pillon.
Alors c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle qu'il y ait un secrétaire général à la planification écologique, parce qu'au moins, c'est la reconnaissance institutionnelle que le marché ne peut pas prendre en charge cette transformation qu'il s'agit de mener à bien. Donc, du point de vue du débat public, des représentations, il y a quelque chose d'extrêmement important. Que ce terme soit reconnu au niveau de l'État, c'est très important. L'autre chose qui est très importante, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est complètement périphérique, mais qui est directement rattaché au Premier ministre. Donc, il y a bien cette idée que c'est aussi quelque chose qui doit avoir une portée générale. On va s'arrêter là pour les bonnes nouvelles. Hein. Parce que ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle, c'est que effectivement, ce secrétariat, aujourd'hui, il y a un secrétariat qui a très peu de pouvoir et qui même est d'une certaine façon en sursis. Hein, là, on sait qu'il y a des discussions en cours pour redéfinir sa mission. Parce que la mission, ce qu'il a commencé de mettre en œuvre, et qui était quelque chose d'intéressant, qui était déjà d'avoir une espèce de comptabilité en nature d'un certain nombre de dimensions de l'action de l'État. Donc là, il y avait quelque chose qui commençait dans la bonne direction et remis en cause par le nouveau Premier ministre. Et donc, il y a une discussion qui est en cours. Alors, de quelle manière on se différencie de ce qui a lieu au sein du gouvernement ? Eh bien, c'est que, pour l'instant, ce secrétariat général à la planification écologique, pour de vrai, ne planifie pas. Il ne planifie pas, c'est-à-dire qu'il essaie de coordonner l'action de l'État, mais il ne travaille pas sur des scénarios. Il ne travaille pas sur des scénarios, il ne permet pas de les discuter non plus. Fondamentalement, la manière dont on perçoit la planification écologique, dont on conçoit la planification écologique, c'est finalement l'articulation de quatre moments. Un moment qui doit être un moment démocratique, de définir des scénarios, des grandes priorités. On ne va pas discuter de la couleur des chaussettes, mais par contre, effectivement, de la question de l'obsolescence programmée, des principaux modes de transport, de la manière dont on s'insère dans l'industrie, au niveau industriel, dans l'économie mondiale. Toutes ces choses-là doivent être délibérées. Donc, premier élément, délibération. Deuxième élément, comptabilité. On met en regard cette délibération, on l'informe à partir d'une comptabilité écologique, c'est-à-dire les limites planétaires telles que les scientifiques aujourd'hui les décrivent. Et on en discute aussi. Quelles limites on accepte, à quel niveau. Troisième élément, c'est la question, et là on est vraiment dans le dur par rapport à la proposition du gouvernement, il ne s'agit pas juste d'avoir de la comptabilité, éventuellement d'en discuter, mais il s'agit de se donner les moyens de mettre en œuvre ces priorités. Comment mettre en œuvre ces priorités? Dans les sociétés contemporaines, il y a une institution qui est absolument essentielle, c'est l'institution de l'investissement. Les entreprises, elles investissent. Et en investissant, elles forment l'économie de demain, la société de demain, les modes de consommation de demain. Et bien donc, cet investissement qui aujourd'hui est piloté par le secteur privé, c'est là où doit y avoir la transformation majeure. Il faut qu'il soit piloté par la démocratie. C'est en gros deux choses, les services publics, leur développement, mais, et d'autre part, la question de la socialisation de l'investissement par le système bancaire. On pourra en rediscuter plus précisément. Et puis le quatrième levier, si vous voulez, de cette planification qui est donc distincte d'une simple conversation comptable, eh bien, c'est ce qu'on appelle la demande émancipée. C'est l'idée de donner à chacune et à chacun davantage de poids dans sa manière de consommer, consommation collective, la question des services publics et leur extension, mais aussi consommation individuelle, ce que a été relevé tout à l'heure. Dans l'idée des consommateurs 2.0, on parle de cyber-soviète. C'est l'idée que, finalement, aujourd'hui, on est très largement manipulé, on ne peut pas vraiment peser sur notre consommation. Pourtant, les systèmes d'information numérique pourraient donner des leviers de prise de conscience et de poids sur la consommation bien plus importants que ça n'existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les AMAP, par exemple. C'est quelque chose de formidable, c'est très bien. On a des associations de consommateurs, ça existe. Il y a toute une série de gens qui essayent de peser à travers ces moyens-là. C'est extrêmement bien. Mais si vous êtes un fan d'escalade ou si vous êtes un fan de musique et que vous voulez, d'une certaine manière, maîtriser votre consommation, eh bien vous pouvez difficilement le faire uniquement à l'échelle locale. Vous avez besoin d'autres types de communautés. Le numérique permet ça. Donc pour résumer, pas juste une conversation comptable, mais quatre institutions, la démocratie, la comptabilité, le contrôle de l'investissement et des outils pour émanciper la consommation.
Il y a quelque chose d'important qui se joue aussi dans la distinction entre transition et bifurcation. Et je pense que ça permet aussi de faire la démarcation par rapport à Macron et Antoine Peillon que vous évoquiez, qui est donc le secrétaire à la planification écologique. Si vous considérez qu'on peut remplacer toutes les voitures thermiques actuellement en circulation par des voitures électriques, vous êtes dans la transition. Il y a combien de voitures en circulation en France aujourd'hui? Un peu moins de 40 millions. Si vous faites ça, évidemment, vous avez des besoins en extractivisme, par exemple en lithium. Tout le monde suit ici, j'imagine, le débat sur la mine des Chassières, et on la suit nous aussi. Et donc ça suppose une captation de matières premières qui est considérable et qui n'est pas soutenable, et qui aggravera encore les inégalités entre le Nord et le Sud. Ça, c'est la transition. Ça veut dire que vous remplacez un système énergétique carboné, fossile, l'essence, quoi, des voitures, par un système énergétique alternatif. Si, en revanche, vous êtes dans la bifurcation, ça veut dire que vous vous posez la question de faire diminuer drastiquement le nombre de voitures en circulation. Okay. Donc vous faites de la politique en plus, parce que ça suppose, entre autres choses, une nouvelle manière d'aménager le territoire, une nouvelle manière de concevoir la ville, les relations de la ville et la campagne, etc. etc. Donc c'est ça, fondamentalement, la différence entre transition et bifurcation. Le gouvernement, il est dans la transition, fondamentalement. Joe Biden, il est dans la transition. L'Union européenne, son Green Deal, ou Green New Deal, Green Deal, je crois, c'est fondamentalement de la transition et pas de la bifurcation. Donc l'élément de transformation sociétale ou sociale, fondamentale, est absent. Un deuxième aspect, c'est que l'État, pendant les 30 ou 40 années de néolibéralisme, est devenu impuissant ou s'est rendu lui-même impuissant sur le plan administratif. Or, il faut une administration agile et efficace pour faire de la planification. Par exemple, pour vérifier ce que deviennent les subventions que l'État va faire vers des secteurs comme les énergies renouvelables. Or, aujourd'hui, l'État n'a plus ses capacités administratives qu'il avait à l'époque des Trente Glorieuses. Et donc, l'une des difficultés auxquelles on est confronté, c'est qu'il faut reconstruire un État aujourd'hui qui soit justement agile, créatif, efficace, et qui soit capable de suivre le destin ou le cheminement, en quelque sorte, des subventions qui sont données à ces secteurs. Et puis un troisième élément qui nous distingue, je pense, de Macron, c'est qu'il n'y a pas du tout de démantèlement, de fermeture, comme disaient nos amis que vous citiez. Il y a deux éléments, hein, la transition et la dimension investissement, et puis la dimension démantèlement. Quoi. Les hydrocarbures, c'est fini. Le secteur pétrolier, c'est fini. Donc il faut fermer. Il faut fermer et rénover ou accompagner la main-d'œuvre, etc., etc. Cette dimension-là de la bifurcation écologique, elle n'est pas du tout présente, évidemment, dans les travaux d'Antoine Peillon, au secrétariat à la planification écologique. Donc pour ces trois raisons-là, on se distingue de la planification telle qu'elle est définie par Macron. Mais on est prêt à discuter, évidemment. Il n'y a pas de difficulté de ce point de vue.
Donc là, on a eu un premier vis-à-vis en termes de planification écologique avec l'État, donc avec la stratégie gouvernementale. Je vous propose un deuxième vis-à-vis avec le monde des acteurs économiques productifs. Donc eux ne parlent pas forcément de planification écologique, mais par contre, on peut considérer que ces acteurs productifs-là, finalement, ils planifient leur production. Et justement, vous, dans votre approche de la planification écologique, vous faites changer de côté cette approche de la planification. C'est-à-dire que ce ne sont plus des acteurs privés qui vont planifier la production, mais que ça pourrait justement se passer autrement. Donc voilà, je vous propose d'expliciter un petit peu plus cette approche, le fait de dire que bah, finalement, les acteurs économiques actuellement font de la planification et que vous proposez un autre type de planification qui n'engagerait pas uniquement les acteurs économiques productifs.
Alors, il y a trois grands modes de coordination de l'économie, trois grands modes d'organisation de l'économie. Il y a le mode traditionnel, c'est-à-dire on fait ce qu'on faisait avant, on répète. Hein, donc c'est comme ça que les sociétés ont pendant très longtemps vécu. Le deuxième mode de coordination, c'est celui qui nous est vendu comme le mode le plus important et le mode dominant, qui est le marché. Donc c'est l'idée que voilà, on donne des prix, et par rapport à ces prix, des acteurs indépendants s'ajustent, font leurs décisions, leur pari sur les profits à venir, donc ils investissent, leurs décisions de consommation. Et puis, il y a la planification, le plan. Le plan, on en a parlé, ce sont des expériences à l'échelle des pays, mais c'est aussi une pratique quotidienne dans les grandes entreprises. Les entreprises, à l'intérieur des entreprises, ce n'est pas principalement des marchés, c'est au contraire principalement des décisions de type planification, qui sont guidées par une logique de proportionnalité, hein, en fonction d'un objectif qui est fait par une entreprise comme Coca-Cola sur tel ou tel marché. Eh bien, on va commander telle quantité de sucre, telle quantité de tel et tel colorant, etc. etc. Donc il y a une logique de proportionnalité qui se déploie. Et cette logique de planification, elle est importante depuis qu'il existe des entreprises. C'est quelque chose qui a évidemment une très longue histoire, mais c'est de plus en plus important. Marx, il avait cette formule géniale. Il a souvent des formules géniales, mais... alors c'est plutôt c'est dans la traduction anglaise du Capital qu'on trouve la formule. En français, c'est pas traduit de la même façon. Mais en anglais, il dit « un capitaliste en tue beaucoup ». Ça veut dire, en gros, que le processus de concurrence conduit à l'élimination des capitalistes en nombre moins important de capitalistes. Il parle aussi de cette idée d'expropriation des expropriateurs. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Et quel est le rapport avec la question de la planification? Eh bien, il nous dit qu'au fur et à mesure du développement capitaliste, on a une tendance à avoir des entreprises qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus sociales, et finalement de plus en plus de planification. La place du marché, relativement à ce qui est organisé à l'intérieur des firmes, tend à se réduire au fur et à mesure que les entreprises deviennent de plus en plus grandes. Et au XXIe siècle, les entreprises sont de plus en plus des quasi-monopoles ou des très grandes entreprises en situation d'oligopole qui ne sont pas seulement à l'échelle des États-nations, comme c'était le cas dans la période d'après-guerre, mais qui jouent de plus en plus à l'échelle mondiale. On vit dans une économie où la concurrence existe, certes, mais elle est très fortement encadrée et structurée par des très grandes entreprises qui elles-mêmes planifient et organise. Alors cet élément de planification, il est très important, il est dans les entreprises, et on pourrait même dire qu'il va en partie aujourd'hui au-delà des entreprises. Avec la monopolisation des technologies du numérique, les entreprises contrôlent très largement les marchés et leur évolution. Elles anticipent sur ceci. Google est une giga machine à planifier. L'intelligence artificielle, on pourrait en parler, est une des modalités que utilisent ces entreprises aujourd'hui pour construire, contrôler ces marchés. Donc cette logique finalement de contrôle, hein, verticale, marquée par une logique de proportionnalité, de prévoyance qui permet de déployer des actions stratégiques, est très présente et est plus présente que jamais. Mais on n'en parle pas. Elle n'est pas du tout légitime dans l'idéologie qui domine. L'idéologie qui domine, c'est celle du marché, de l'efficacité, de la start-up, etc. Mais Tout ça, c'est vraiment peanuts. Hein, ça existe, bien sûr, mais c'est très périphérique par rapport aux grandes forces qui structurent l'économie. Et les grandes forces qui structurent l'économie sont aujourd'hui des grandes formes privées de planification. Donc notre argument, il consiste aussi à dire, attention, on met en garde contre la planification, mais aujourd'hui, elle existe, celle-ci. Et elle n'est pas mise au service de la tâche qui devrait être la priorité de toutes et tous, à savoir la transformation de notre rapport aux écosystèmes pour les rendre soutenables, mais elle est mise au service du profit par les grandes firmes. Donc il y a aussi ce caractère réaliste de notre propos, c'est aussi de s'appuyer sur des pratiques qui existent aujourd'hui dans les grandes firmes.
Oui, peut-être juste reprendre au beau cette notion de réalisme qui est assez importante, je pense, dans la méthode qu'on met en œuvre. Nous, on ne fait pas un livre d'utopie à proprement parler, au sens où on ne décrit pas une société post-capitaliste achevée avec ses règles, son fonctionnement, sa société civile, son éventuel État s'il y en a. En fait, on part vraiment de l'existant, c'est-à-dire d'expériences de planification passées ou présentes qui nous fournissent une matière empirique à partir de laquelle réfléchir. Et ces expériences de planification passées, elles ont eu lieu soit dans des contextes capitalistes, par exemple en France, peut-être qu'on viendra tout à l'heure à la discussion de la planification indicative à la française, ou dans des contextes non capitalistes, comme par exemple l'Union soviétique ou d'autres. Et donc, par un jeu de comparaison, de présentation des expériences passées, de comparaison, on essaye de dégager ce que pourrait être un avenir relativement à moyen, disons court-moyen terme, une sorte de programme de transition qui pourrait nous entraîner vers un au-delà du capitalisme à terme, mais qui n'est pas une société non capitaliste achevée. Et donc tout ce que disait Cédric, c'est-à-dire le fait que le capitalisme, en effet, il planifie, est quelque chose qu'on reprend tout à fait à notre compte. Le problème étant, comme il l'a dit, que c'est une planification qui est essentiellement faite pour le profit et au bénéfice des classes dominantes. Mais donc si le capitalisme planifie, c'est bien que la planification est possible. Et que donc le fonctionnement de nos économies capitalistes n'est pas un fonctionnement qui répond au canon de l'économie néoclassique, de la manière dont l'économie néoclassique définit le fonctionnement pur et parfait des marchés. Il y a un autre aspect de la planification, peut-être que ça nous entraîne vers la suite du débat, c'est que, en fait, la planification, ça suppose la centralisation de la délibération. Mais il y a aussi des institutions politiques où cette centralisation a lieu. Qu'est-ce que c'est qu'une Assemblée nationale? Quand elle fonctionne, évidemment, pas comme aujourd'hui dans notre 5e République. Mais elle fonctionne. Il y a des gens qui essayent de la faire fonctionner. Mais une Assemblée nationale, c'est une instance de centralisation de la délibération où des discussions qui peuvent avoir lieu à l'échelon communal, départemental, régional sont centralisées et sont tranchées par nos représentants, par les députés. Et donc, évidemment, c'est pas de la planification au sens économique du terme, mais c'est une forme de centralisation qui permet aussi de déterminer quels vont être les paramètres, notamment économiques, mais pas seulement, mais aussi juridiques, du futur collectif qu'une société se donne. Donc, encore une fois, des instances de centralisation, décentralisation et de planification dans le domaine économique ou ailleurs, c'est des choses qui existent vraiment de manière routinière dans nos sociétés. Donc, on parle pas du tout d'une société qui serait complètement utopique. On s'appuie véritablement sur des éléments qui des mécanismes, des éléments, des procédures qui existent déjà dans nos sociétés, mais évidemment qu'il s'agit de radicaliser, de prolonger, etc.
Alors effectivement, dans votre ouvrage, vous menez l'enquête sur ce qui a pu exister, sur ce qui existe toujours en matière de planification, que ce soit des expériences réelles ou que ce soit aussi un ensemble de concepts qui ont pu être développés. Et de cette façon-là, vous montrez que vos propositions sont réalisables, qu'effectivement, ce n'est pas uniquement de la prospective, qu'on s'appuie sur des choses concrètes qui existent. Et en ça, on s'inscrit voilà, dans des trajectoires, comment on fait à partir de ce que l'on a actuellement pour bifurquer. Vous montrez qu'il existe des germes d'une possible planification écologique et vous identifiez justement ces germes grâce à une boussole. Et vous passez un peu de temps dans votre ouvrage à expliquer cette boussole qui touche à la notion de socialisation et à la déclinaison de la socialisation. Donc je vous avoue que ce n'est pas le passage le plus facile de l'ouvrage et c'est pour ça que ça me tient à cœur qu'on y revienne là ensemble pour que vous puissiez l'expliciter là à l'oral.
La socialisation, c'est en effet un concept qu'on définit au début, qui a une vieille histoire, qui est présente chez Marx, qui est présente chez Durkheim. En effet, ça nous entraînerait trop loin d'entrer dans les détails. On y reviendra peut-être dans les questions-réponses, si vous le souhaitez. On a
un petit peu de temps.
Oh, non, bien sûr, mais j'allais livrer l'exercice. Donc, en gros, le point de départ, c'est la division du travail. C'est-à-dire que dans les sociétés capitalistes, il y a une séparation entre les producteurs et les consommateurs. Autrement dit, on ne produit nous-mêmes rarement ce qu'on consomme, quoi, nos tomates, les ordinateurs que l'on utilise, etc. Il y a une séparation grandissante de la production et de la consommation qui va aussi avec une distance géographique de plus en plus importante entre le lieu de production et le lieu de consommation des marchandises. Et puis, à l'intérieur de la production elle-même, donc pas entre la production et la consommation, mais dans les processus productifs, il y a aussi une fragmentation de plus en plus grande qui aujourd'hui prend la forme de la production mondialisée. C'est-à-dire qu'un ordinateur qu'on utilise ou une voiture qu'on achète en France est produite à un endroit, assemblée à un autre et vendue à un troisième endroit. Et je simplifie à outrance, mais vous voyez l'idée. La mondialisation de la production, c'est ça. Donc il y a la division du travail, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire de la séparation entre la production et la consommation et de la fragmentation de la production. En même temps, il y a des interdépendances de plus en plus importantes. Cédric a commencé à les présenter. Ce qu'on consomme nous ici, pour consommer, nous dépendons de plus en plus de travailleuses et de travailleurs qui produisent ces marchandises et qui sont soit en France, soit dans des pays limitrophes, soit encore à l'autre bout du monde. Donc il y a une double tendance en apparence contradictoire qui est une tendance à la division du travail d'un côté, mais aussi à l'émergence des interdépendances. Le problème de ces interdépendances, et Cédric encore une fois l'a dit, c'est qu'elles sont placées sous le signe du profit, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas maîtrisées collectivement et délibérées démocratiquement. Et donc une manière parmi d'autres de définir la planification écologique, c'est de dire que c'est la socialisation politique. On a dit que la planification écologique, c'était le gouvernement par les besoins. Une autre manière de la définir, c'est de dire ça. C'est la socialisation politique, c'est-à-dire la maîtrise consciente et délibérée des interdépendances en vue de la soutenabilité écologique et en vue d'un approfondissement de la démocratie. Voilà. En gros, l'idée, c'est celle-là. C'est la double tendance contradictoire de la division du travail et de la socialisation, donc socialisation et interdépendance, c'est la même chose, et le fait que cette socialisation dans les sociétés capitalistes profite essentiellement aux capitalistes, et que la planification, c'est le fait de maîtriser ou de reprendre le contrôle de ces interdépendances pour en faire quelque chose qui est décidé collectivement et pas seulement par les propriétaires du capital.
Petite parenthèse, et vous parlez aussi de socialisation organisationnelle, cognitive. Donc ça, c'est pour Cédric, du coup.
Non, mais, donc ce concept de socialisation, on peut aussi le définir, pour mieux le comprendre, négativement. Hein, ce qui est peu socialisé, c'est la petite production indépendante, la petite production, l'autoproduction. Hein. Si, comme c'était courant en France dans les siècles passés, vous avez une petite ferme, que vous produisez l'essentiel de ce que vous mangez, que vous produisez en grande partie vous-même la maison dans laquelle vous allez vivre, que vous produisez vous-même le bois avec lequel vous allez vous chauffer, le pain que vous allez manger, les habits que vous allez mettre, eh bien vous êtes finalement très peu inséré dans une socialisation de la production et de la consommation. Hein, c'est au contraire quelque chose qui est. Nos sociétés, oui, on le sait là tous, c'est ce que disait Razmig à l'instant, pensez un seul instant à tout le travail, toutes les personnes différentes, toutes les régions différentes qui sont impliquées dans ce qui nous permet d'être ensemble à cet instant même dans cette pièce. Le monde entier est dans cette pièce. Donc ça, c'est vraiment une socialisation extrême. Aujourd'hui, on est arrivé à un état de socialisation qui est extrême. Cette socialisation, elle est donc organisationnelle. C'est les grandes firmes. Les grandes firmes sont des grandes organisations qui permettent de prendre en charge cette division du travail extrêmement, extrêmement importante. Cette socialisation, elle est aussi cognitive. Hein. Elle est aussi cognitive, c'est quoi ? Ça va être par exemple les standards. Si vous voulez construire une voiture aux quatre coins du monde, eh bien, il va falloir qu'il y ait un langage commun entre les producteurs aux quatre coins du monde qui vont permettre d'assembler les différents bouts, faire en sorte que ça marche ensemble, que la roue soit bien au bon format pour se mettre sur l'essieu, bon, etc. Eh bien, la même chose pour les trains, etc. Bon, donc tout ça, c'est des standards, c'est de la socialisation cognitive. Il y a des connaissances au-delà de ça qui permettent de mettre en commun ces éléments-là et qui circulent et qui permettent au processus de production d'avoir lieu, mais aussi de la socialisation culturelle qui va faire en sorte que finalement, lorsqu'on voyage aujourd'hui, bien, on a toute une série de codes qui sont partagés dans différents pays parce que finalement, on a été socialisé à consommer d'une certaine façon qui nous rapproche. Donc l'idée centrale, hein, c'est l'idée que finalement, on est de plus en plus proches les uns des autres. On est de plus en plus articulés les uns des autres. On est de moins indépendants les uns des autres. Le problème, c'est que cette mise en commun est masquée d'une certaine façon, nous n'en avons pas la maîtrise. Et en particulier, vis-à-vis de l'environnement, nous en perdons la maîtrise. Pourquoi ? Parce que au lieu d'expliciter la qualité de cette mise en commun, on ne l'aborde qu'à travers le système de prix. Le calcul individuel de prix, on a l'impression d'être rationnel et d'optimiser. Mais en fait, ce système de prix, il nous masque
la réalité de ces interdépendances que je viens de vous décrire et la réalité de leur impact sur la nature. La planification, c'est prendre en charge politiquement cette socialisation pour ensuite, effectivement, être capable de mieux maîtriser ça. Indemnisage positif du libre. Hein, y a un message qui est inquiétant, celui par lequel j'ai commencé. C'est l'idée qu'effectivement, ça va très vite. Ta formule était absolument excellente tout à l'heure. L'avenir vient très vite, ouais, il vient trop vite, là, en fait. Bon. Le message positif, c'est que, finalement, cette conscience qu'on a aujourd'hui du fait que l'avenir vient trop vite, de l'intensification de ces dérèglements, eh bien, est quelque chose qui existe pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. La socialisation que l'on vit, c'est aussi aujourd'hui une capacité en tant qu'espèce humaine d'être consciente de nos propres effets destructeurs, de les observer, d'en débattre et donc d'essayer d'agir. Alors aujourd'hui, on constate surtout le désastre, mais constater le désastre, c'est évidemment nécessaire pour pouvoir prendre en charge ce problème-là. Et donc, c'est un sociologue qu'on cite dans le livre qui s'appelle Göran Thorborn, il dit finalement, on vit peut-être un certain âge de progrès dans le sens où jamais l'humanité n'a été aussi consciente d'elle-même qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Alors, dans votre ouvrage, vous nous proposez deux pistes très concrètes que sont le calcul écologique et le fédéralisme écologique. Donc, je pense qu'il est temps de revenir sur ces deux concepts qui sont finalement les deux piliers de ce gouvernement par les besoins dont vous nous parliez tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous entendez par calcul écologique? On va commencer par ce terme-là. Donc, de quoi s'agit-il? Plus précisément, qu'est-ce qu'on compte? Avec quelle unité de mesure? Comment on compte? Qui compte? Pourquoi faire? Donc, voilà, tout un ensemble de questions autour de ce calcul écologique donc, que les auteurs développent largement hein, dans leur ouvrage. C'est une grosse partie. Donc, bien sûr, l'idée est bien de nous en faire une petite synthèse pour nous mettre l'eau à la bouche, mais d'avoir voilà, quelques éléments d'explication sur ce terme-là.
Il y a un des piliers de l'économie écologique qui s'appelle William Capp. Et ce William Capp disait dans les années 70 deux choses très intéressantes. La première, elle fait le lien avec ce que je viens de dire précédemment. Il dit aujourd'hui, notre impact sur la nature, notre capacité à affecter la nature est de moins en moins quelque chose qui révèle notre capacité de la maîtriser. Il y a une forme de dérèglement qui a lieu. Et cette idée, finalement, le programme cartésien de se rendre comme maître et possesseur de la nature, aujourd'hui, il y a bien effectivement un impact croissant de l'activité humaine sur la nature, mais c'est un impact qui, finalement, révèle notre propre faiblesse, notre propre manque de maîtrise. Et il disait aussi une seconde chose. Il dit, dès lors qu'on a pris ça au sérieux, eh bien, on doit rentrer dans un nouveau genre de conversation. Une conversation qu'on ne peut pas avoir avec des unités monétaires. Une conversation qui est nécessairement qualitative sur la nature, ces différents composants et la manière dont on rentre en matière avec elles. C'est ça le calcul écologique. C'est finalement rentrer en matière avec la nature, en nature, en comptant la nature, en nature et non pas en unité économique. Alors, il y a un comptable national, je sais qu'il y a des gens de l'INSEE dans la salle, donc je profite pour faire un clin d'œil à ceci. Il y a un comptable national récemment disparu qui s'appelle André Vanoli, qui a proposé une méthode hein, pour réfléchir à cette comptabilité écologique. Il disait, ce dont on a besoin, c'est une comptabilité, un inventaire permanent de la nature. Un inventaire permanent de la nature. C'est quoi un inventaire permanent? Eh bien, c'est compter autant que possible. Évidemment, ça ne sera pas, c'est pas possible de compter toute la nature, mais autant que possible et à différents niveaux, ce que constitue la nature. Les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, la qualité, la variété des espèces dans une forêt, la quantité de plastique dans les océans, etc., etc. Et donc, avoir une comptabilité de ce type-là, de manière à, une fois cette mesure-là prise, être capable de décider des chemins pour faire évoluer l'impact que l'on a sur la nature et la manière dont celle-ci réagit. Donc, la comptabilité écologique, le calcul écologique, c'est donc une forme de comptabilité écologique en nature. Alors, peut-être, c'est assez long dans le livre, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais je voudrais dire à quoi ça s'oppose. Ça s'oppose à un autre genre de comptabilité écologique qui se développe en même temps de façon galopante, et qui consiste à dire, ce qu'il faut compter, c'est les services que nous rend la nature. Qu'est-ce que ça vaut une balade en forêt? Qu'est-ce que ça vaut un gypaète barbu? Qu'est-ce que ça vaut de l'eau claire d'une rivière? Bon. Et donc, on va essayer de mettre un prix sur tout ça. Et de se dire, finalement, si on met un prix sur tout ça, vu qu'on compte tout en prix, eh bien, on va bien s'en rendre compte et puis on va faire attention. Alors, le problème de cette démarche-là, c'est qu'il y a deux problèmes. Il y a un premier problème qui, vous allez comprendre très vite, c'est que ça suppose qu'on peut tout comparer. Ça suppose qu'on peut éliminer un certain type d'oiseaux pour préserver un certain type de paysage. C'est des choses qui, pourtant, dans une logique écologique, hein, au compte de réparation de notre relation avec la nature, ne sont pas acceptables. On ne peut pas réduire la nature à une seule dimension. On ne peut pas sacrifier tel espace animal pour tel paysage. On ne peut pas sacrifier non plus, ce qui est la logique des économistes, la nature au nom du fait qu'on aurait du progrès. Les économistes écologiques mainstream nous disent la chose suivante. Certes, on saccage la nature, on la saccage un peu trop. Mais si on fait un peu plus d'efforts et qu'on investit davantage, eh bien ça pourra aller. Certes, on va laisser aux générations futures une nature plus dégradée, mais vu qu'on aura fait des investissements dans l'innovation, ils seront plus riches, plus heureux, donc finalement ça se compense. On peut finalement compenser du capital par de la nature. Bon, ben ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Là, il y a quelque chose qui est au-delà du calcul écologique, qui est une forme d'approche éthique. Quel est notre rapport aux générations futures, en particulier en matière d'environnement? La position qu'on défend dans ce livre, ben, c'est qu'il faut léguer la nature dans un état qui soit aussi proche possible, et si possible mieux même que celui dans lequel on l'a hérité. Et puis, il y a finalement une autre aberration qui, là, vous allez en convenir très simplement, est quelque chose d'un point tout simplement logique. Si on donne un prix à la nature, comme le proposent les économistes mainstream, vous pouvez me dire quel est le prix de la nature? La nature en général, toute la nature, c'est quoi son prix? Bah, c'est un prix infini. C'est un prix infini. Et dès lors, si la nature dans son ensemble a un prix infini, on ne peut pas vraiment découper la nature en petits bouts qui auraient un prix qui lui serait fini. Il y a quelque chose qui ne marche pas d'un point de vue logique. Donc, si vous voulez, l'approche mainstream de la comptabilité écologique, qui est de donner un prix à la nature, est finalement quelque chose qui permet de la réifier, de la faire rentrer dans les calculs, et de l'abîmer, de la détruire. Un des apports, on l'espère, fort de ce livre, et on s'appuie sur des travaux qui sont faits d'ailleurs par d'autres, j'en ai cité certains, il y en a d'autres qui travaillent plus au niveau microéconomique, mais c'est de rendre hommage à ceux qui disent, bien non, la nature, on ne peut pas la compter à travers les prix. On doit la compter en tant que telle, et ajuster nos comportements économiques par rapport à la connaissance que l'on en a.
Peut-être un mot du coup sur le fédéralisme écologique, si ça te va. Ouais. Donc en gros, on a dit que la planification écologique, c'était pas que de l'économie, c'était aussi de la politique, des institutions, de l'administration. Et donc on peut dire d'une certaine manière que le fédéralisme écologique, c'est notre proposition qu'on soumet à la discussion. Évidemment, c'est pas un projet clé en main, quoi, achevé. Donc le fédéralisme écologique, c'est notre proposition de, en quelque sorte, l'architecture institutionnelle qui accompagne la planification écologique. Voilà, donc c'est un concept fondamentalement politique, quoi, mais d'économie politique ou de politique économique qui articule les deux dimensions politique et économique. Une manière de présenter les choses, c'est la suivante. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est ce que certains appellent la dictature sur les besoins, qui est un concept qui a été notamment forgé par une philosophe hongroise qui s'appelle Agnès Heller et qui disait que l'Union soviétique était une dictature sur les besoins. Ça veut dire quoi? Une chose très simple, c'est que un ensemble de bureaucrates, coupés de la société civile, décident de ce que c'est qu'un besoin légitime, que donc il faut satisfaire, par opposition à des besoins qui ne sont pas légitimes, mais donc on ne va pas satisfaire. Okay, c'est le système soviétique. Donc ça veut dire que les citoyennes et les citoyens, la société civile, n'a pas son mot à dire sur la définition des besoins et sur les objets, les marchandises qui vont éventuellement satisfaire ou pas ces besoins. Ça, c'est évidemment un risque. C'est le risque de l'autoritarisme. Et il y a dans l'écologie politique aujourd'hui des courants qui sont assez dans cette veine un peu autoritaire, quoi. On pourrait en discuter plus en détail si vous le souhaitez. Évidemment, nous, notre objectif, c'est pas l'autoritarisme, ça va sans dire. C'est l'approfondissement de la démocratie plus la dimension de soutenabilité forte. Et donc, on est très méfiant vis-à-vis de tout ce qui irait vers une forme de dictature sur les besoins. La solution, c'est quoi? Bah, c'est d'ancrer au plus près des citoyennes et des citoyens la délibération sur les besoins à l'échelle de la commune, à l'échelle de l'AMAP, pourquoi pas, à l'échelle d'une ZAD, à l'échelle du département, etc. Donc c'est véritablement ancré au plus près du territoire la délibération sur les besoins. Donc ça, c'est le principe de base. Le problème, c'est qu'il y a évidemment des mesures qui ne concernent pas que l'AMAP, pas que la ZAD, pas que la commune, mais qui supposent une montée en échelle. Si on décide de réduire le nombre de voitures en circulation de 40 millions à, je sais pas, 5 millions, disons, ou 3 millions, ce qui est un peu les scénarios qui existent aujourd'hui, ben, il va falloir investir massivement dans les transports publics. Mais ça va pas se décider à l'échelle d'une ZAD, ça. Ça va pas se décider à l'échelle d'une AMAP, d'une commune. Donc il faut monter en échelle. Okay? Donc il faut les institutions qui permettent de passer de la commune à l'échelon étatique national, ou éventuellement, pourquoi pas, continental. Donc la montée en échelle est une nécessité de la planification écologique pour bien des choses à réaliser dans cette planification écologique. Le fédéralisme écologique, très simplement, c'est cet aller-retour entre la centralisation et la décentralisation. C'est ancrer la délibération sur les besoins au plus près du citoyen, autant que possible, et tout ce qui est possible. Mais quand une montée en échelle est absolument nécessaire, eh ben, on mutualise, on centralise et on délibère à un échelon qui est l'échelon pertinent par rapport aux problèmes posés. Par exemple, si on investit dans les transports, si on crée des nouvelles voies de train, par exemple, c'est, encore une fois, c'est pas à l'échelle d'une ZAD, c'est à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Pour illustrer ce fédéralisme écologique, on parle de la Chine. Alors ça va vous paraître bizarre, parce qu'évidemment la Chine c'est un État autoritaire, personne, ça a échappé à personne. Alors évidemment, on le reconnaît, et on le dit dans le livre, mais il y a des choses qui nous intéressent dans l'expérience chinoise, qui est que l'expérience chinoise de planification est une expérience décentralisatrice. En fait, il y a deux caractéristiques de l'expérience chinoise de planification à partir des années 70-80. C'est que d'abord, la Chine, c'est un pays immense, et donc on laisse d'abord expérimenter dans le cadre de la planification les régions. Et puis dans un deuxième temps, ce qui a marché à l'échelle d'une région, on le fait remonter à l'ensemble du pays, et ce qui n'a pas marché, ce qui a échoué, ben, on l'abandonne. Donc il y a une dimension fortement décentralisatrice dans les premiers moments de la planification chinoise. Donc ça colle assez bien à ce que j'ai dit sur le fédéralisme écologique. On part du plus bas et après on remonte en échelle. Okay. Et puis il y a une deuxième dimension de la planification chinoise, c'est son caractère cyclique. Un plan, c'est pas dans la tête des bureaucrates et puis c'est pas imposé à la réalité. Au contraire, il y a un aller-retour permanent entre ce qu'il y a dans la tête éventuelle des planificateurs et ce qui se passe sur le terrain. En fait, il y a des plans quinquennaux qui sont divisés par deux, avec une première phase du cycle où il y a de l'expérimentation et une deuxième où se passe exactement ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on fait remonter ce qui a marché, on le généralise et on abandonne ce qui n'a pas marché. Donc la dimension expérimentale et la dimension cyclique sont les deux caractéristiques fondamentales de la planification chinoise. On la trouve aussi en France, d'ailleurs, dans l'après-guerre. Bon, peut-être qu'on en parlera par la suite. C'est quelque chose d'assez proche, cette proximité entre la France et la Chine du point de vue des expériences de planification est quelque chose qui a été remarqué par plusieurs spécialistes. Donc la planification française, c'est celle de Jean Monnet, celle d'après-guerre. C'est les Trente Glorieuses, quoi. C'est le commissariat au plan des origines, en quelque sorte. Donc il y a des affinités entre ce qui s'est passé en Chine et en France, et donc ces deux dimensions-là sont quelque chose qu'on reprend et qu'on considère être fondamentaux dans le fédéralisme écologique, c'est-à-dire dans l'architecture institutionnelle qui va avec le modèle de planification écologique qu'on propose. Donc, voilà, dans les grandes lignes, c'est ça l'idée. Le fédéralisme permet d'articuler la décentralisation maximale avec la nécessité de la montée en échelle quand cela est nécessaire, et pour la planification écologique en particulier, dans les premiers temps de la planification écologique, le moment de la bifurcation proprement dite, il va falloir aller vite et fort et à une échelle relativement élevée, quoi. Donc la montée en échelle, la centralisation, ou une certaine centralisation, va être quand même...
Alors on doit terminer pour 19h, parce que la librairie ferme à 19h, et on doit aussi garder un petit temps pour la signature des ouvrages. Mais sachez qu'il y a plein de points qu'on n'a pas le temps d'aborder, notamment par exemple rentrer dans le détail des besoins. Vous parlez beaucoup des besoins réels, des besoins artificiels, de la frontière floue et difficile entre besoins et désirs. Vous parlez aussi de la place de l'individu dans tout ça, parce que vous avez une approche institutionnaliste, une approche macro, en fait, et quid de l'individu, quid de la conception de la liberté individuelle, où vous nous redonnez, à partir notamment de Sen et Nussbaum, une autre définition de la liberté qui est un petit peu moins connue dans notre monde néolibéral, donc qui tourne plus autour des capacités. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est pour vous donner un peu l'eau à la bouche, tout ça pour dire qu'il y a plein de points qu'on n'a pas traités là ce soir et que peut-être que vous restez, vous, en tant qu'auteur, par rapport à tout ce que vous nous racontez dans ce bouquin, un petit peu sur votre fin, mais que malheureusement, on doit quand même conclure. Donc je vous propose quand même, pour conclure, de nous dire, vous, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne là, en sortant de cette salle ouverte? Quel serait le message principal que vous voudriez que tout un chacun puisse retenir?
Oui.
Il a réfléchi avant, c'est pour ça.
Non, c'est un livre qui est réaliste. Donc l'idée centrale, c'est qu'on peut faire autrement que de ne pas prendre en charge la crise écologique. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des moyens institutionnels de le faire. Mais une des conditions dont on n'a pas discuté ce soir, mais on conclut le livre là-dessus, et c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est que pour que la planification écologique ait lieu, elle doit être sociale. Elle doit apporter des garanties aux classes populaires qu'elles ne vont pas être les perdantes de cette transformation-là. Et dans ce livre, on discute de ces choses-là. On discute aussi de la question de la garantie de l'emploi, par exemple, qui est quelque chose d'extrêmement important pour faire en sorte de donner des garanties, vraiment, on a envie de dire, en acier trempé, hein, aux classes populaires, que cette transformation-là ne va pas se faire à leurs dépens. Et c'est pas juste une question cosmétique, c'est une question stratégique. S'il n'y a pas cette garantie-là, il n'y aura pas de bloc politique qui mènera bien la planification écologique.
Oui, entièrement d'accord. Le mot réalisme, je pense, est vraiment l'élément déterminant. Une sorte de réalisme critique. Évidemment, on ne colle pas au réel tel qu'il est à l'heure actuelle. On prolonge aussi des choses qui existent dans le réel et qui sont émancipatrices, quoi. Mais tout ce qu'on évoque dans le livre a existé par le passé ou existe aujourd'hui sous une forme, sous une autre. Pas de la manière combinée dont on l'évoque. Pas avec l'approche sélective que j'évoquais tout à l'heure, qui est notre méthode en quelque sorte. Mais on fait vraiment, je crois, un effort pour incarner, pour rendre concret et empirique tout ce qu'on raconte et pour illustrer tout ce qu'on raconte. Et par conséquent, le moment est venu, je pense, d'avoir confiance en nos idées à nous tous. Je veux dire toutes les personnes qui sont intéressées par une transformation à la fois écologique et progressiste, voire révolutionnaire, du monde dans lequel on se trouve.
Donc merci à toutes et à tous pour votre participation. Vous avez des ouvrages à votre disposition juste vers Gaëlle, donc que vous pouvez consulter, vous pouvez continuer à poser quelques questions à nos auteurs.
Poulanza, c'est au rayon sur politique.
Poulanza, c'est très important.
Et ainsi qu'Amélie.